se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à lundi, 68% de remise immédiate sur la deuxième boîte de capsules de lessive Homo 3 en 1.
À 22 centimes la lessive, je veux bien faire celle du voisin.
Eh ben comme ça, tout le monde est content. Auchan, avec plaisir. 11,87€ les deux boîtes de lessive Homo Monoï au lieu de 17,98€. 8,99€ la boîte vendue seule, soit 12,71€ le kilo. Existant d'autres variétés valables sur le moins cher dans vos magasins et drive Auchan participants et en livraison à domicile. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi.
Vous écoutez
RMC.
RMC, Estelle Midi.
Les Immanquables.
Et on va commencer, Rémi, avec le sondage du jour.
Le sondage du jour, il a l'air de beaucoup les aimer. Il, c'est Emmanuel Macron, durant la campagne présidentielle de 2022. Le président candidat a multiplié les commandes auprès des instituts de sondage, affichant même un nouveau record par rapport au précédent scrutin de 2017. D'après les informations du média d'enquête La Lettre A, le chef de l'État a dépensé lors de la dernière campagne présidentielle pas moins de 325 000 euros en études d'opinion. C'est 125 000 euros de plus qu'en 2017. Ça a été pris sur les comptes de campagne, pas sur les comptes de l'État, évidemment.
Ça vous gêne, ça, Perico Légas, ou vous trouvez ça normal, finalement ?
Ah, si c'est lui qui paye, il n'y a aucun problème.
Oui.
Il y a eu quelquefois des interrogations sur le financement de ces études d'opinion, ensuite des relations avec les cabinets conseils qui, pendant la campagne électorale, aident à la victoire électorale et se retrouvent ensuite avec des mandats publics. Bon, si ça peut les rassurer, c'est pas que lui, hein, c'est une pratique ancienne. Et c'est vrai que le problème, c'est est-ce qu'on tient compte du sondage pour faire évoluer propos électoral ? Et finalement, on est dans du marketing politique, on n'est plus dans la conviction politique. Donc là, effectivement, il faut se poser la question.
Ce qui est gênant, c'est pas tant le chiffre. En fait, c'est le fait que le président ait autant recours au sondage. En fait, c'est quand même ça. Je veux dire, à un moment, veut dire qu'on navigue un peu à vue.
C'est ça
qui me gêne.
Perico a dit le bon terme du marketing électoral. Effectivement, alors on peut se poser la question de l'idéologie ou de la théorie macroniste. Est-ce que le macronisme existe ? Est-ce qu'il y a un fondement idéologique et politique au macronisme ou le macronisme tâtonne en fonction des sondages ? Et on disait aussi au débat de la première heure sur on a voté, on a élu démocratiquement Emmanuel Macron qui va appliquer la réforme des retraites. À l'époque de l'élection présidentielle, selon les sondages d'opinion commandés par Emmanuel Macron, les Français étaient opposés à au recul de l'âge légal de départ à la retraite.
Donc, vous n'avez pas besoin de payer les sondages pour le savoir.
Oui, mais la lecture des sondages, à quoi elle sert derrière? S'il paye autant d'argent pour des sondages qu'il va lui-même ne pas étudier, en l'occurrence la réforme des retraites.
Alors, la réforme des retraites, mon chéri, a été faite uniquement pour plaire à la finance européenne et à l'Allemagne.
Nous sommes d'accord. Ce que je veux dire, c'est que.
Pour ça qu'il paye cher le prix. Il a besoin de ça.
Ce que je veux dire, c'est que, un, quels sont les fondements idéologiques et théoriques du macronisme, s'ils sont basés sur des sondages, donc c'est pas théorique, c'est pas idéologique.
Donc il tient pas toujours compte des sondages, mais...
Non,
mais il en a pas besoin de cela.
Et en plus, il tient pas compte des sondages.
Alors je te rassure, Hollande a fait mieux, hein.
Nicolas Sarkozy
et aussi, oui, très très bien.
Non, Perico, ça a été Thierry Breton, commissaire européen, a dit vraiment que l'Europe n'avait rien à voir, que c'était une décision qui était purement française.
Oui, c'est ce qui confirme.
C'est ce qu'il a dit.
C'est ce qu'il confirme.
Alors dans les sondages,
il
y a des sondages, c'est vrai, des sondages quantitatifs et qualitatifs. Alors quantitatif, bon voilà, c'est ça. Alors vrai qualitatif, on va tester une idée en particulier et on va voir un petit peu ce qu'il en est. À partir du moment où c'est lui. Non, mais moi, ce qui me gêne, si vous voulez, c'est des sommes d'argent. À partir du moment où c'est pris sur la campagne du président, bon, ben, il en a besoin. Pardon ?
C'est moins cher que les ronds-points.
Ah, c'est à peu près équivalent, vous avez vu.
Ah non,
vu,
c'est
y a
2
des
millions
ronds-points.
Pour les ronds-points, 325 000 pour les sondages.
Oui, tourner en rond ou sonder, il faut choisir.
Exactement. Le chiffre du jour, Rémi.
L'inflation poursuit sa progression. Elle a atteint en février 6,3% sur un an en France, tirée par l'envolée des prix de l'alimentaire. Et c'est une estimation définitive revue à la hausse par l'INSEE.
Oui, ce qu'on nous disait 5,9, Pierre Rondeau, dans de nombreuses émissions. Vous avez dit, c'est moins de 6, c'est moins de 6. Mais en fait, c'est 6,9.
Au-delà de l'inflation, sur les chiffres, que ce soit croissance, inflation, emploi, chômage, toujours en tête Bruno Le Maire, qui fait son travail de ministre de l'économie pour rassurer les marchés et aussi rassurer les Françaises.
Ça a bien marché aujourd'hui.
Et les Français, oui. Mais moi, j'ai encore le souvenir d'un Bruno Le Maire qui nous disait qu'il n'y aura pas de mars rouge, qui nous disait qu'il n'y aura pas de février rouge, qui nous disait qu'il n'y aura pas de décembre rouge, qui, dès le mois d'octobre, sur le plateau d'RMC, disait que l'inflation allait bientôt se tarir.
Oui. C'était le pic en décembre.
Oui.
Vous savez qu'à chaque fois que Bruno Le Maire dit quelque chose, l'inverse se Vous savez, voilà. Hier, il nous a dit ne pas paniquer à cause des banques, et aujourd'hui, les banques ont plus de 10%
c'est une boussole inversée.
À la Bourse de Paris. Donc,
voilà. Monsieur le maire est une boussole inversée. Ça peut servir.
C'est pas honnête de globaliser le chiffre de l'inflation. Parce que vraiment, là, on en a parlé tout à l'heure. Je veux dire, il faut dire l'alimentaire, c'est ça, l'énergie, c'est ça, les transports, c'est ça. Oui. Et on va voir effectivement. Et quand on voit l'alimentaire qui est largement à deux chiffres et pas à un chiffre, donc c'est un peu malhonnête de dire 6,3, vous voyez.
On prend tout en compte, le carburant, l'énergie, l'alimentaire.
Mais on peut le dire.
Oui,
on peut le dire
comme ça.
Voilà, si vous regardez, il y a des journaux, la presse, ça existe. Si on veut avoir le détail, on les a.
On ne peut pas mettre 10 chiffres.
Attention sur l'inflation.
Non, mais Robert, c'est vrai. Si c'est vrai, on peut le dire. Effectivement, tu as raison, on peut le dire. L'inflation globale est à 6,3.
Par contre,
et l'inflation alimentaire, elle est à 14.
Oui, alors attention, l'inflation n'a pas que des inconvénients. Si on veut vers une politique keynésienne et réguler les taux d'intérêt, là, on est prisonnier depuis 40 ans. Les Allemands ne veulent pas d'inflation parce que leur électorat de la CDU est sur des fonds de pension. C'est des retraites capitalisées. Donc, faut pas qu'on est dans le monétarisme absolu. Ça nous a mis en difficulté. Un peu d'inflation.
Mais là, c'est eux qui sont en problème maintenant.
Voilà. Mais un peu d'inflation,
pour la dette, c'est bon.
Voilà.
Normalement, un peu d'inflation fait que ça fait aussi monter les salaires mécaniquement.
On va pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Mais pour l'économie globale en France, un peu d'inflation est mieux que pas d'inflation
du tout. Un peu d'inflation, c'est 1,5%.
C'est les 2% qui sont prévus par la BCE.
Je l'ai connu à 17 sous Giscard.
Mais c'était avant l'espace communautaire européen.
Donc c'est là où il y a un problème. Comment ça se fait que l'Europe ne nous débloque pas cette situation?
Il peut aussi considérer que cette inflation soit en partie monétaire due par les politiques anticonventionnelles de la BCE depuis les années 2010, qui a provoqué une impression majeure de biais. D'où l'inflation actuelle.
Exactement.
Voilà. Donc aujourd'hui, la BCE est prise à son propre piège d'émission de billets et maintenant cherche à réguler, à contrôler l'inflation.
Merci de cet aveu.
La reconnaissance du jour, et ça c'est important. Rémi.
Une ancienne infirmière du centre hospitalier de Sarreguemines vient d'obtenir la reconnaissance de son cancer du sein en maladie professionnelle. Une première, selon la CFDT, qui pourrait faire office de jurisprudence et ouvrir la voie à d'autres reconnaissances. L'infirmière en question a pu être exposée au cours de sa carrière, notamment au rayonnement ionisant à l'oxyde d'éthylène ou encore à des perturbateurs endocriniens.
Alors c'est une reconnaissance très importante, Robert, mais enfin ça fait un peu flipper pour toutes les infirmières qui nous regardent.
Je suis extrêmement mal à l'aise avec ce cas. Parce que bien sûr, je peux comprendre le drame de cette infirmière. Maintenant, la causalité, si vous voulez. On sait, si vous voulez, que le stress joue un rôle important.
Elle a travaillé une nuit, deux nuits, une fois par semaine, pendant 28 ans.
Avec la mélatonine, ça peut jouer un rôle. Mais vraiment, mettre la causalité systématiquement par rapport à sa profession, autant elle serait radiologue, si vous voulez. Elle serait exposée depuis des années et des années à des rayonnements. On peut se poser la question. Là, c'est extrêmement difficile. Parce que d'abord, ça va faire jurisprudence.
Oui, mais il y a une commission qui s'est réunie avec des médecins. Plusieurs médecins dans cette commission.
Je vous dis pourquoi je suis mal à l'aise. Parce que le cancer, il est réel. Mais c'est toujours le même problème. Afficher une causalité, si vous voulez, entre une affection et la profession que vous avez, autant quand vous avez des gens qui travaillent sur l'amiante, on sait que l'amiante, mais oui, là il y avait une causalité immédiate sur l'asbestose et le cancer de la plèvre. Là, sur un cancer du sein, si vous voulez, ça met médicalement, je sais pas qui était dans la commission, j'ai découvert ce cas ce matin. Il faut être extrêmement prudent parce qu'il n'y a pas de limite.
Mais
si
c'est
vous voulez
une avancée, c'est-à-dire qu'elle va être peut-être mieux indemnisée.
Mais tant mieux, mais moi, je veux dire, oui, mais alors tous les cancers du sein.
Ça veut dire qu'on connaît le processus de déclenchement du cancer. Voilà.
On ne le connaît pas réellement. Il y a des facteurs familiaux sur le cancer du sein, il y a des facteurs hormonaux.
C'est une probabilité.
Je ne peux pas vous répondre sur ce cas particulier, mais très honnêtement, je pense qu'il faut être extrêmement prudent. Peut-être que ce cas, il est tout à fait légitime, mais il faut faire attention.
Mais en tout cas, c'est une avancée pour l'indemnisation d'autres femmes qui vont certainement suivre le même chemin. Voilà, parce que si c'est reconnu comme accident du travail, maladie professionnelle, c'est pas la même chose.
Mais il faut entendre ce que dit Robert. Demain, une journaliste, une personne qui travaille dans une grande surface déclenche un cancer du sein, il dit moi j'étais très fatigué, je travaillais, j'avais des horaires décalés, fait jurisprudence et qu'elle est. Enfin, les entreprises pour s'en sortir.
Oui, comme l'a rappelé Estelle, si j'en crois, cette affaire très précise, il y a eu une commission d'enquête avec des médecins.
Apparemment, là, puisqu'elle a travaillé, elle travaillait pendant 28 ans, elle a travaillé une nuit par semaine. Donc elle était fatiguée en horaire décalé. Qu'elle était peut-être en contact avec certains produits qui pouvaient. Il n'y a pas de preuves.
D'accord.
Je pense que c'est des estimations. On estime que ça peut être
individualisé. voilà. Individualiser effectivement chaque cas et le regarder de près.
Et on va terminer avec les chiffres de la mobilisation, on les a, Rémi.
Effondrement de la mobilisation dans le cadre de la 8e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Ah oui. On a moins de 3% de mobilisation dans la fonction publique, c'était 25% le 7 mars, 15% de grévistes à la SNCF et à EDF, on sait que le secteur est très mobilisé, ouais. On a 25% de grévistes aujourd'hui, c'est moitié moins par rapport à il y a une semaine.
C'est la fin de ce mouvement
Vincent Moscato, il mobilise plus de monde que ça dans son audience, hein. Voilà. Mais c'est effectivement le tassement, l'essoufflement. Ils ont trop tiré sur la ficelle. Et maintenant, les gens, voilà. Tout de même, on a compris que le processus était irréversible. Et les gens qui ont, parce que c'est, les syndicats ont quand même obtenu à un moment donné une mobilisation. Mais faut pas aller trop loin. Ils auraient dû faire une grosse journée et terminer. Voilà. On en est là.
Ouais, la grosse journée, malheureusement, est-ce qu'il y a eu la grosse journée à 800 000? Mais elle n'a servi à rien.
On n'a pas bloqué le pays.
Est-ce que la seule réponse,
Pierre, c'est le blocage? Ils avaient dit, on va mettre l'économie à genoux.
Ce serait une journée noire.
C'est ce que disaient les
syndicats. Même Clément Beaune a dit, ça va être une des pires journées.
Maintenant, voilà.
Ils ont fait trop de journées de mobilisation.
Des primes collectives, sentiment qu'au final, le gouvernement ne reculera pas et que c'est vraiment, c'est irréversible. On est aujourd'hui, et moi la seule chose qui m'inquiète, et oui, mais j'ai envie de dire oui, et la seule chose qui m'inquiète, c'est la conséquence qu'il y aura en 2027. Dans les urnes, ça m'étonnerait que les gens se redirigent vers Emmanuel Macron.
Bah, il n'y aura pas Macron, de toute façon, il ne peut pas se représenter.
Oui, en tout cas, le candidat qui représentera la majorité présidentielle.
Ça peut aggraver l'abstention. Les gens n'y croient plus, là maintenant c'est terminé, sur lui, il a le 49-3.
Qui est gagnant dans l'histoire?
Robert Sebag.
Vous n'effacerez pas le ressentiment, vous n'effacerez pas l'impression d'humiliation. C'est ce qui me fait peur sur le long terme et les autres réformes à venir.
En tout cas, demain, ça va être une très, très, très grosse journée. On sera tous mobilisés sur RMC. Journée de vote sur la réforme des retraites à l'Assemblée nationale. Ou peut-être journée du 49-3. On verra ça.